Leonide Pentecôte. Vous savez que le don du Saint-Esprit a été donné aux apôtres pour témoigner de Jésus, mort pour les péchés des hommes et ressuscité. Ce sont les témoins de la résurrection. Quand je vais dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 31 et 32, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans ses jours des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc c'est Dieu qui a prévu ça. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Donc tous, ça veut dire les 12 apôtres, parce qu'ils en ont choisi un 12e à la place de Judas. Et puis, il y a aussi les frères qui étaient sur le mont Tabor, 500 frères. Ils sont cités dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 5. Donc ça fait du monde. Quand l'apôtre Pierre dit « nous sommes tous témoins », c'est du monde. Ce sont des braves gens qui ont cru en Jésus-Christ. Au chapitre 3, verset 15, c'est la même affirmation, ils sont témoins de la résurrection. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Donc, ils sont les témoins. Nous reviendrons là-dessus après. Maintenant, si je vais dans le chapitre 17 des Actes des Apôtres, au verset 30, vous allez voir que c'est toujours le même thème. Chapitre 17 des Actes des Apôtres, verset 30 et suivant. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, donc changer de vie et renoncer au péché et choisir le chemin de la sainteté grâce au don du Saint-Esprit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, donc la sainteté divine. » Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en ressuscitant des morts. Donc il y a une preuve certaine qui fait l'objet du témoignage du Saint-Esprit à travers les apôtres. Voilà pourquoi le Saint-Esprit était donné. C'est essentiel. Alors, si c'est ainsi, cet après-midi, après diverses tâches, J'ai prévu un petit message. C'est le jour d'anniversaire de l'Église, la Pentecôte, tout compte fait. C'est le premier jour, c'est la naissance de l'Église. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle est fondée sans la présence corporelle de Jésus. C'est drôle, le fondateur n'est pas visible, il n'est pas présent physiquement. C'est assez dur tout de même de fonder un projet tel que l'Église à travers le monde sans que la personne même du fondateur soit là. C'est un peu dur, c'est assez éprouvant. Et cette fondation est fondée simplement sur la foi. Elle est fondée sur la foi des apôtres et des autres témoins, des autres disciples. Donc quand Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 28, versets 18 à 20, « Je suis au milieu de vous » jusqu'à la fin du monde, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il affirme qu'il est présent parmi eux, mais pas physiquement, pas corporellement. C'est un véritable défi jeté à ces croyants, à ces premiers chrétiens, un véritable défi pour nous aussi. Nul de nous ne ferait ça. Dieu l'a fait. Est-ce que Jésus n'aurait pas pu fonder son Église avant d'être enlevé auprès du Père? Oui, il aurait pu la fonder avant l'ascension, mais il ne l'a pas voulu. Tout cela, c'est assez très étonnant, ça nous laisse perplexes, humainement parlant. Alors, les psychologues diront peut-être qu'il n'y avait pas de Saint-Esprit et Jésus était disparu. Les psychologues et un certain nombre de scientifiques athées pourraient dire que son absence, l'absence de Jésus, était sublimée. Elle est devenue l'objet d'un mythe. Le drame fut tellement intense pour ces braves gens qui avaient aimé Jésus et qui croyaient en lui que son absence n'a pas été acceptée et ils ont fait une psychose collective. Vous savez, je suis sûr de choses pareilles. J'ai entendu des choses pareilles. J'ai lu, etc. Je n'évite pas les problèmes que posent les athées à la foi chrétienne. Oui, imaginez, vivent les paroles dans Matthieu au chapitre 5 à 7 où c'est tout contraire de la vie humaine. Pardonnez 7 fois 77 fois, tant de la joue lorsqu'on vous a frappé, tant l'autre joue. Et quand quelqu'un vous accable par ses paroles, par sa situation, au lieu de faire 100 mètres avec lui, faites-en 200. Si vous avez deux manteaux, donnez-en un. Et bénissez vos ennemis, ne maudissez pas. Ne pratiquez plus la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, etc. Soyez parfaits comme le Père Céleste des cieux est parfait. Tout cela, c'est dans les chapitres de Matthieu 5 à 7. Cette parole pourrait être prise par des psychologues, par des gens savants, mais athées, comme un discours invivable, un discours inadapté au réel, trop idéaliste, voire même surréaliste. Il n'est pas possible de pardonner 7 fois 77 fois. Alors, oui, c'est difficile de concevoir la naissance de l'Église du point de vue athée. Se trouver isolé, marginalisé, incompris, n'est-ce pas l'ingrédient idéal pour fabriquer et pour fabuler, pour institutionnaliser une nouvelle secte? Une secte, bien sûr, bienfaisante, qui fait le bien, qui aime les autres, mais qui est rebelle. Rebelle à tout ce qui se passe, aux valeurs du monde, ce que le monde considère comme valeur, qui est acculturé, qui veut aller ramer dans l'autre sens, dont l'alternative est provocante et elle peut, pour certains, friser l'hystérie. C'est ainsi que l'on a dit d'eux, ils sont ivres de vin doux. Dans les Actes, chapitre 2, verset 13, il est clair que à la Pentecôte, un certain nombre de gens, quand ils ont vu les chrétiens recevoir le Saint-Esprit, ont dit, ils sont ivres de vin doux. Donc, ils ont perdu la tête, ils sont complètement malades et il faudrait faire autre chose que de les écouter. Il faut les ignorer et surtout, peut-être, aujourd'hui, les enfermer, pourquoi pas, leur faire une piqûre. Faire des émissions pour prouver que c'est une secte et qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là. Pourquoi pas? Leur fondateur disparu, ils idéalisèrent le fondateur, ils s'emportèrent dans leur délire, voilà. Rien de bon dans tout cela, voire dangereux. Si ça prenait, qu'est-ce qu'on deviendrait tous? On ne peut pas quand même abandonner tous nos sous, donner tout aux pauvres, tout lâcher, vendre nos maisons. On ne peut quand même pas toujours pardonner, même à ceux qui font toujours du mal. On ne peut pas toujours dire du bien de certains. Ils font que des mauvaises choses. Non, tout cela, si ça prenait, ça, c'est dangereux. Eh bien, les amis, c'est coupé pour l'instant. Tentative de reconnexion. Nous attendons quelques instants. J'imagine les disputes et les querelles dans les familles juives. Quand un juif devenait chrétien, j'imagine les querelles en rue même, ou dans les rassemblements religieux, et dans tous ces pays où il y a du soleil, on a le sang chaud, ça tourne vite, la tête, et donc ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile pour ces gens qui se disent chrétiens et qui affirment avoir reçu le Saint-Esprit et qui ont parlé en langue. Il y a eu des miracles, des guérisons, et tout cela n'était pas pris au sérieux pour la plupart. Mais il y a tout de même une partie de la foule qui a été saisie, touchée, et on va voir pourquoi. Bon, de toute manière, continuons dans le sens de la critique. Ce sont des illettrés, ce sont des paysans venus de Galilée, des petits pêcheurs, ils ne connaissent rien aux Écritures, ils n'ont pas de formation biblique, rabbinique, Et voilà tout d'un coup qu'il se repose solidement sur les Écritures et qu'il les connaisse. Ces illettrés, par miracle, sont devenus des lettrés. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Jean-Baptiste les a enseignés avant que Jésus n'arrive, ces Galiléens. Ensuite, Jésus les a enseignés, ils n'ont pas trop bien compris, mais après la résurrection, pendant 40 jours, il les a enseignés. On voit ça dans Luc chapitre 24, qu'il prit les psaumes, Moïse et les prophètes, et les enseigna, il leur ouvrit l'esprit. Donc les illettrés sont devenus des lettrés, des connaisseurs des Saintes Écritures. Cela, pour des paysans en 40 jours, c'est une formation accélérée. C'est déjà quelque chose de formidable. On voudrait bien faire des chrétiens avec un tel bagage en 40 jours. Moi, je vois que pendant des années, je donne des enseignements et je n'arrive pas à ce résultat. Et pourquoi donc? Parce que la puissance de l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint lui-même avait décidé qu'en 40 jours, il devait les former et les faire partir, travailler. La puissance sur le collège apostolique, la puissance de Dieu, est venue sur eux. Et eux étaient lettrés bibliquement en 40 jours. Et quand Jésus est parti, pendant les 10 jours, ils n'ont pas abandonné les Écritures. Ils attendaient l'Esprit-Saint qui a fait en eux le tour de toutes les Écritures, qui les a instruits, qui a parlé à leur cœur, à leur âme, et qui leur a redit, fait penser à tout ce qui était dans les Écritures, et qui leur a donné la lumière totale sur les Écritures. Et ça, c'est extrêmement important de savoir que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui, les amis, c'est pas que quelqu'un tombe à terre dans une église, ou qu'il crie, il saute, il fasse des alléluia, c'est qu'il soit instruit dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit le veut, et c'est son œuvre. Celui qui néglige la parole de Dieu ne peut pas me laisser croire qu'il aime et qu'il a reçu le Saint-Esprit. Ensuite, ces illettrés de Galilée, qui sont devenus des lettrés, des instruits, des disciples, si vous voulez, le mot disciple c'est ça, n'avaient aucune idéologie de conquête. Alors que beaucoup de Juifs avaient une idéologie de revanche contre les Romains, contre les Arabes, etc., contre beaucoup de monde, les Syriens, et ils avaient envie d'avoir le pouvoir et la puissance. Et il leur fallait un Messie puissant. Et donc, on voit dans la vie de ces chrétiens, d'origine juive, évidemment, puis après, très rapidement, il y a d'autres qui ne sont pas d'origine juive, qui s'intègrent dans l'Église, eh bien, ils n'ont pas d'idéologie de conquête. Ils ne veulent pas que le monde leur soit soumis. Ils ne veulent pas que le monde s'abaisse devant eux. Ils veulent servir le monde. Ils veulent aimer le monde et se consacrer aux autres. Ils n'ont pas d'idéologie de conquête, de pouvoir, mais seulement un esprit d'amour pour les autres. Parce que Dieu aime les hommes et que Jésus est mort par amour pour les hommes. Et ils ont un esprit d'amour. Ce n'est donc pas un esprit de conquête, comme à l'époque des croisades ou à l'époque de guerre de religion qu'ils ont venus après, qui ne représentera en rien du tout le Saint-Esprit. Ils allaient jusqu'à pardonner 7 fois 77 fois à leurs ennemis, 77 fois, à bénir leurs ennemis, leurs opposants, et à même accueillir leurs opposants chez eux avec joie et avec paix. À les accueillir, comme s'ils étaient des bienfaisants. Ils se comportaient admirablement bien avec quiconque, même les insultait et les malmenait. Donc les nouveaux lettrés sont des personnes qui sont d'une grande valeur au niveau moral, au niveau comportemental, au niveau intérieur. Ils ont un bagage en eux, une puissance de vie en eux. Le fleuve d'eau vive que Jésus avait promis à ceux qui croiraient en lui après qu'il serait ressuscité, dans Jean chapitre 8, le fleuve d'eau vive est en eux. Le Saint-Esprit est en eux, les amis. Et c'est pour aimer le monde, c'est pas pour le haïr, le jeter, ou le condamner, ou le dominer, le tyranniser. Alors, le troisième point, ces illettrés qui sont devenus des lettrés, des instruits des Écritures, donc des vrais disciples, n'aimaient pas l'argent, n'aimaient pas l'orgueil, n'aimaient pas la souillure, mais ils aimaient ceux qui se souillaient, ils aimaient ceux qui manipulaient l'argent malhonnêtement, ils aimaient les orgueilleux, mais ils n'aimaient pas tous ceux qui étaient obsédés et partisans du mal. Ils n'aimaient pas quoi en eux ? Le mal, le péché, mais ils les aimaient. Ils aimaient les hommes, comme Jésus. Et ils étaient prêts à donner leur vie pour annoncer le message de Jésus, l'enseignement, l'Esprit Saint de Jésus, pour qu'ils tombent sur ces malfrats, ces truands, ces gens dévoyés, ces gens qui vivent dans les convoitises, dans les mauvaises pensées, dans les mauvaises vies, pour qu'ils soient devenus différents, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient dans le chemin de la sainteté, le chemin de Dieu. Et pour cela qu'il faut qu'ils soient transportés du monde de perversion où ils sont, dans ce monde de sainteté. Comment transporter ? Ils se sont mis au service du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit tombe, vienne dans la vie de ces personnes-là aussi. Donc, ils étaient au service de l'Esprit-Saint, ils n'étaient pas profiteurs de l'Esprit-Saint, ils n'étaient pas manipulateurs de l'Esprit-Saint, ils n'en disposaient pas comme ils voulaient pour leur avantage. Ils en disposaient intérieurement pour l'avantage du monde, pour le salut du monde. Voilà. Maintenant, leur parole, où qu'ils soient dispersés, ces 500 frères et ces 12 apôtres, qui sont partis, comme Thomas en Inde, au sud de l'Inde, et d'autres autre part, ils sont partis. Ils n'étaient pas tous les jours ensemble. Après que les 50 ou 100 jours qui ont suivi la Pentecôte ont été écoulés, ils sont tous partis. Ils ont travaillé pour le Seigneur à travers le monde. Eh bien, leur parole a toujours été conforme, analogue. Elles ont toujours été unies par la même vérité, par le même enseignement, par le même Jésus, par le même Saint-Esprit. Il y avait une unité, un corpus, une assemblée de foi à travers le monde se répandait. Et il n'y avait pas besoin d'Internet, du téléphone portable, du smartphone, il n'y avait pas besoin de tout cela. Le Saint-Esprit suffisait pour qu'ils soient connectés ensemble et animés ensemble. Du mot anima en latin qui veut dire vie. Ils sont dans la vie du Saint-Esprit. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit à la Samaritaine en disant, si tu savais, tu me demanderais de l'eau que je pourrais te donner, tu n'aurais plus jamais soif. Eh bien, c'était cela qui a été donné à tous les disciples, à ces hommes et à ces femmes qui ont servi le Seigneur Jésus, qui ont reçu l'Esprit Saint. Il y avait en eux une eau, ils n'avaient plus besoin de rien d'autre de ce qui venait du monde. Ils avaient l'eau vive, la source d'eau vive en eux, qui venait de Dieu, et ils n'avaient pas besoin de se compromettre aux fausses valeurs du monde. Bien sûr, le monde croit que les vraies valeurs qu'il a sont justes, sont bonnes, évidemment. Jusque tant que la lumière du Saint-Esprit vienne sur eux, il leur montre, mais non, c'est tout faux. Ce sont des ténèbres. Ce sont des œuvres qui ne plaisent pas à Dieu et qui n'amènent qu'à la mort, à la séparation éternelle avec Dieu. Donc le sujet essentiel des paroles était la vérité, la sainteté, la transformation de la vie des personnes, pour être dans la vérité de Jésus. Et tout concordait par la puissance du Saint-Esprit sur le seul sujet essentiel qui les tenait, Jésus de Nazareth, mort pour les péchés des hommes et ressuscité et vivant. Tout concordait à travers tout l'espace où ils étaient sans qu'ils aient les moyens modernes. Je le dis bien, si Dieu n'a pas choisi le temps d'aujourd'hui par Internet, téléphone, etc., satellite, pour connecter les hommes, c'est parce que Dieu est plus grand que toutes nos inventions. Dieu est capable de mettre ensemble, d'unir les hommes par le Saint-Esprit et de leur donner une pensée vraie et juste qui ne coûte rien au portefeuille. Il n'y a pas besoin d'acheter tous ces appareils. C'est un don gratuit de Dieu. Le don du Saint-Esprit. Alors, leur vie, la vie de tous ces chrétiens à travers le monde, et pensez à ceux qui se sont convertis, à Jérusalem et qui ont reçu des instructions, des enseignements, qui sont partis, ils ont fondé des assemblées, des églises. Ils se référaient au même Saint-Esprit, ils se référaient au même Jésus de Nazareth. Et je vais vous dire, le Saint-Esprit les animait, les enseignait, les fortifiait, malgré la souffrance et les oppositions qu'ils encaissaient, parfois la mort cruelle qu'ils ont subie, très souvent. La mort fut réservée à beaucoup de chrétiens, durant 2-3 siècles. Eh bien, ils étaient unis par le Saint-Esprit, qui leur donnait une vie en eux, plus forte que la peur, que la crainte de la mort. Ils aimaient le royaume de Dieu, et ils n'avaient aucune crainte. Lisez Luc chapitre 12, ça en vaut la peine. Lisez Luc chapitre 12, c'est l'enseignement de Jésus, pour sortir de cette crainte, qui peut-être vous habite encore, tout en vous disant chrétien. Donc les disciples, les nombreux disciples de Jésus, des centaines, des milliers, et les apôtres, les 12 apôtres, priaient comme si Jésus était là. Quand des athées étaient là, des incroyants, ils se rendaient compte, mais ils parlent à Jésus comme s'il était là. Mais nous, on ne le voit pas, et on ne le sent pas, on ne sait pas où il est. On ne comprend pas. Ils parlent à Jésus comme s'il était là avec eux. Ils parlent, et ils ont des guérisons, ils ont des signes extraordinaires qui s'accomplissent, comme Pierre et Jean qui rentrent au temple et qui disent aux paralytiques de se lever, n'est-ce pas? Il y a d'autres miracles du même genre. Et ils parlent à Jésus, et Jésus fait des guérisons comme au temps où il était vivant avec eux, en Galilée, en Samarie et en Judée. On dirait que Jésus est là, mais on ne le voit pas. Et on dirait qu'eux, ils le voient. Et si c'était Jésus-Christ qui répondait directement aux prières de ces chrétiens, et si le Saint-Esprit avait fait la connexion entre Jésus ressuscité et les disciples et les apôtres? Moi, je le pense. C'est le Saint-Esprit qui a fait la connexion, qui a rétabli. Il n'y avait plus d'absence de Jésus-Christ dans leur vie. Il n'y avait pas d'expérience d'absence et de manque. Donc, il n'y avait pas besoin de délire et de fantasmer et de mythologiser Jésus. Jésus, dans leur cœur, est toujours resté le Jésus humble de Nazareth. Ils n'y ont pas fait, pendant des siècles, des statues couvertes d'or. Ils n'y ont pas fait des grands temples et tout ça. C'est après, avec les empereurs, les grands manipulateurs du christianisme, que l'on a fait des statues et des basiliques, du mot Basileus l'empereur, basilique la maison de l'empereur. Oui, l'Esprit Saint était leur connexion, leur lien pour les rendre un, unis, comme le dit l'Épître aux Éphésiens. Oui, le Christ les purifiait, les conduisait, hors de tout péché, passé, présent et à venir. Oui, Jésus-Christ les faisait parler à sa place. Il leur avait disposé un corps, une âme et un esprit qui étaient capables, qui étaient compétents par le Saint-Esprit de parler à sa place. Oui, les cœurs méchants, dévoyés, impurs, les cœurs lâches, peureux, les cœurs intéressés, orgueilleux, prétentieux, étaient bouleversés et transformés. Parce qu'ils voyaient bien que ce n'était pas du bidon, ce n'était pas des fantasmes. C'était quelque chose de palpable, de concret. C'est des gens qui ne se payaient pas des mots, ce n'était pas un jeu leur foi. Leurs actes correspondaient à leur foi, à leur engagement de cœur et d'esprit. Et le Saint-Esprit, on pouvait croire que ce n'était pas le même esprit que celui du monde. C'était clair et net, c'était différent. Donc, des lâches, des peureux, des pervers ont été bouleversés et transformés. La sainteté a été une contagion par ces chrétiens-là. La sainteté de Jésus a été une contagion pour le monde. La sainteté envahissait des contrées, des familles, des autorités civiles et politiques, malgré les persécutions, malgré les incompréhensions. Oui, le vrai remportait la victoire sur le faux, sur la vanité, sur la souillure. Il n'était donc pas fou, il n'était pas hystérique. Parce qu'il y a des rois, des princes, il y a des gens intelligents qui se sont convertis au christianisme. Le vrai de vrai était leur vie. La société en recevait plus qu'elle n'en avait demandé, grâce à eux. Tous les effets positifs de cette foi-là étaient ressentis sur la vie de la société. La société se portait mieux. Si l'Empire romain n'avait pas accepté la foi chrétienne en 313-315, s'il n'avait pas accepté, cet empereur et cet empire dégringolaient rapidement. La décadence était déjà bien en cours, partout, dans les mœurs, dans l'administration, dans l'armée, dans tout. Les frontières étaient mal gardées et tout. Des invasions régulièrement réussissaient. Et pratiquement, si l'Empire romain a tenu 2,5 siècles de plus, c'est à cause de la qualité du comportement de tous ces gens qui sont venus dans les administrations, dans toutes les organisations de la société, qui ont apporté un plus. Je suis au courant, et je connais des frères qui travaillent en France, en Belgique, qui sont chrétiens, qui ont des tâches, des responsabilités dans les sociétés. Ils abattent un travail de 2-3 bonhommes à la place. Le jour qu'on les met à la retraite, il faut 2-3 hommes pour les remplacer. Tellement ces gens ont bossé de manière rigoureuse, claire, compétente. Je connais des noms, je connais des personnes. Je les estime infiniment. Ils sont dans la société civile, ils exercent une compétence et un sérieux. Et les responsables de l'administration, de l'armée, de toutes les institutions civiles, les cherchent, veulent se les accaparer, comme à l'époque de l'Empire romain. Mais ce que, bien sûr, les supérieurs, les directeurs ne veulent pas, c'est la foi chrétienne. Ils ne veulent pas l'évangile. Mais le chrétien est patient. Le chrétien prie. Le chrétien témoigne. Le chrétien n'est pas un conquérant, n'est pas un idéologue, n'est pas un manipulateur. Le chrétien est simplement un témoin de Jésus ressuscité. Et il porte en lui le Saint-Esprit qui parle aux autres, même s'ils font semblant de ne pas le reconnaître. Parce qu'il est difficile de s'humilier et de reconnaître devant les autres qu'on devient chrétien, quand tout le monde rit de cela. Mais ça s'est passé au 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle, et ça se passe encore maintenant. La vie chrétienne n'est pas un mythe, elle est un combat, et un combat du vrai contre le faux, de la qualité contre la corruption, de la vie spirituelle contre la vie animale, de l'esprit divin contre l'esprit de Satan, de l'amour de Jésus contre l'égocentrisme humain corrompu. Eh bien, les chrétiens, à cette époque-là, n'ont pas idéalisé l'homme. Ils n'étaient pas des illuminés, comme parfois dans certaines époques il y en a eu. Ils n'étaient pas des illuminés au sens péjoratif qu'on le dit, des déglingués de la raison. Non, ils n'idéalisaient pas l'homme, ni leur propre foi. Ils se savaient pécheurs. Et ils confessaient leurs péchés et leurs manquements à Jésus-Christ, ensemble, en communauté, en prière. Ils se repentaient publiquement. Ils reconnaissaient leurs péchés et ils priaient les uns pour les autres. Donc ils n'idéalisaient rien du tout de l'homme. Mais ils se rattachaient à la source de vie, Jésus-Christ, qui était pur et sans péché, qui est le vrai prince de la sainteté. Non, ils ne déliraient pas, ils ne bâtissaient pas une humanité idéaliste. Ils bâtissaient au prix d'un grand renoncement, au prix de leur sang, au prix de leur témoignage, pour une nouvelle humanité sans péché, sans haine, sans orgueil, avec comme chef le plus humain des humains, Jésus de Nazareth. L'humain, par excellence, c'est Jésus. Et l'Empire romain l'a bien compris, lui qui était si dur, qu'il n'hésitait pas à massacrer tellement de gens dans son histoire. a compris la valeur inestimable de la foi chrétienne. Bien sûr, par la suite, tout homme est rusé et il utilise le meilleur d'entre nous parfois pour s'en servir. Et il est clair que les chrétiens ont été utilisés. Mais Jésus a vu tout ça, Dieu le voit, Dieu sait trier les brebis des boucs, Dieu sait trier le blé de l'ivraie. Dieu sait regarder ce qui est vrai et faux le jour qu'il viendra juger. C'est lui qui fera la part des choses. Quand vous voyez dans les paraboles de Matthieu, au chapitre 13, que la foi est comme un petit grain de sénévé qui pousse un arbuste, un arbre, et puis il est grand, et tous les oiseaux viennent dedans. Il faut bien penser que tous ces oiseaux, c'est les mêmes oiseaux qui, sur le chemin, dans l'autre parabole, volaient la semence, la parole de Dieu. La semence qui tombait sur le chemin et qui est volée par les oiseaux. Et c'est quoi? C'est le diable. C'est les enfants du malin. L'arbre a grandi dans cette parabole de Matthieu 13. L'arbre a grandi. Le christianisme s'est répandu. Et puis dans le christianisme, s'est implanté des tas de corbeaux, des tourneaux qui volent tout. Vous n'avez jamais vu 10 000 ou 20 000 étourneaux qui arrivent dans une vigne et qui mangent tout, et puis qui vont s'arrêter le soir dans une ville, ils se mettent sur le toit, sur les fils électriques, et ils blanchissent toutes les voitures et les trottoirs. Eh bien, c'est ce genre d'oiseau qui est représenté dans cette parabole. Jésus était conscient de cela, les chrétiens étaient conscients, ils étaient avertis par Jésus. Il n'y avait pas plus réaliste que les chrétiens, mes amis. Les chrétiens vraiment enseignés dans la parole sont extrêmement réalistes. Ils voient clair. Ce n'est pas pour ça qu'ils les arment. Ce n'est pas pour ça qu'ils arrêtent leur vie de foi et de témoignage. Pharaon, à l'époque de Joseph, qui était un homme plein d'abominations, d'iniquités, Pharaon a eu peur pour la ruine de son empire. Pharaon avait eu des cauchemars, il voyait 7 vaches maigres manger 7 vaches grasses, il voyait des épis gras de blé manger des épis maigres, et des épis maigres manger des épis gras. Et Joseph lui dit que c'était bientôt. Dans 7 ans, il y aurait des famines et que l'Égypte serait ruinée. Qu'a fait Pharaon, qui ne croyait pas dans le Dieu d'Israël, le Dieu de Joseph? Il a désigné Joseph comme premier ministre. Et Joseph a récupéré une partie de toutes les récoltes chaque année, le double de la dîme, il les a mis de côté, et l'Égypte s'en est sortie. Quelle était l'importance d'un homme de Dieu dans cet empire? Cet empire qui adorait des faux dieux, qui manipulait la vérité, l'importance d'un seul homme qui a la vérité dans son cœur, qui craint son Dieu et qui vit comme Dieu lui demande. Regardez l'importance de Joseph. Vous avez, vous chrétiens, une place à tenir dans la société. Vous avez une place, elle est plus importante que vous le pensez. Vous sous-estimez votre place. Il ne faut pas minimiser notre rôle devant Dieu, devant les hommes. Nous avons un rôle précieux. Le Saint-Esprit nous a été donné pour ce rôle précieux. Oui, bien sûr, par nos seules forces, c'est impossible. Mais que de grandes grâces apportées à tous les peuples par des hommes et des femmes de foi. L'absence de Jésus visible, ne veut pas dire que c'est l'absence de Jésus. L'absence de Jésus corporellement ne veut pas dire que c'est l'absence de Jésus. L'absence de Jésus et la naissance de l'Église et le don du Saint-Esprit ne veut pas dire que c'est un mythe, une sublimation, une psychose hystérique collective, etc. Beaucoup de cœurs ont changé, des mœurs dépravées furent bouleversées, des rapports humains et sociaux bienveillants furent établis, des sociétés furent touchées dans un sens positif. Le cœur de Dieu, le cœur de la Trinité, tomba sur terre le jour de la Pentecôte. Le cœur de Dieu se mit à battre, à palpiter dans le cœur des disciples et des 12 apôtres. Le cœur de Dieu tomba sur terre dans sa première église et il fit battre la terre d'une nouvelle vie. Le cœur de Dieu, animé par le sang de Jésus qui a coulé à la croix, est un cœur plein d'amour et de pardon pour les pécheurs qui sont sur la terre. Le cœur de Dieu veut faire vivre les hommes qui sont morts actuellement et qui ne s'en rendent pas compte. La prière du psaume 51 est exaucée, chers amis, grâce à la Pentecôte. Psaume 51. Vous me direz, chers amis, que le confinement se termine, qu'il faut, il n'y aura plus de prédication lundi, mercredi, vendredi. Eh bien, je pense que, vu les situations actuelles de la société et du monde, non. Je souhaite continuer, si Dieu me le permet. Et si vous y consentez, encouragez les autres à entendre et à changer de vie. Et parlez-leur de même la façon dont je vous parle. La prière du psaume 51, faite par un grand pécheur, David. Il avait fait assassiner un de ses meilleurs hommes de son armée pour prendre sa femme. Psaume 51, verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, bien sûr d'Adam et Ève, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, une petite branche de bouillie si vous voulez, trempée dans l'eau, dans le sang de la vache rousse, pour en asperger, pour le pardon des péchés. Je serai pur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Ah. Voilà une supplique accompli à la Pentecôte. Une supplique accomplie à la Pentecôte. Un miracle, une prière faite 1000 ans avant. Une autre prière, psaume 27, de ce David qui avait des dons excellents pour servir Dieu, mais qui fut si misérable à certains moments, si tordu, tous les excès. Et pourtant, Dieu l'aimait et a fait des grandes choses dans sa vie. Et quelle est la plus belle? Regardez là dans le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Je vais plus loin. Verset 5. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. En sachant que le nom du rocher, c'est le Christ. Hein? C'est clairement biblique, hein? Et déjà ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Il avait en lui, un appel de Dieu, un besoin de Dieu, dingue, fort. Et il n'arrivait pas à connecter avec Dieu. Il n'arrivait pas. Il fallait le Saint-Esprit. Et il décide tout de même, même si ce n'est pas encore le jour de la Pentecôte, ça sera accordé à ses descendants, à la Pentecôte, il dit, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon Père. Cette supplication, aujourd'hui, il y a des amis, des voisins, des frères, des sœurs, des ennemis à vous, qui, peut-être, ont cet appel en eux et qui n'ont pas d'excellence dans leur vie. Ils ont cet appel en eux et ils n'ont pas de bonnes choses en eux. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas où Dieu leur parlera. Ils ne savent pas comment Dieu va déclencher le changement. C'est par le don du Saint-Esprit que le changement se fait. Il faut qu'ils lisent la Bible, qu'ils aillent dans les Écritures, qu'ils lisent les versets des paroles de Jésus. Et là, le Saint-Esprit les instruira. Le Saint-Esprit tombera sur eux pour leur dire « Tu as cherché ma face, maintenant voilà, je te parle. » Je te parle. Quand tu lis ça, et le sentiment extrêmement fort de saint Augustin, Augustin, qui était un Algérien, un berbère, qui était un grand rhétoricien, un grand discoureur, qui avait du succès, il était malheureux, il cherchait, il avait ce besoin de Dieu. Quand il a entendu une parole, il était dans le jardin, une parole qu'il lui disait tout le temps, à plusieurs reprises, un jour, arrivé à 45 ans, 40 ans, qui lui dit, mais lis mon livre, prends mon livre, lis mon livre. Il a été attiré vers la Bible, dont il se moquait, parce que sa mère était chrétienne, il s'en moquait, il n'en voulait pas. C'était monsieur moi-je. Il courait les femmes, il faisait un peu de tout dans sa vie, comme beaucoup aujourd'hui. Eh bien, il a commencé à lire. Et quelques temps après, dans les minutes qui ont suivi, il a dit « Dieu m'a parlé, je le connais. » Voulez-vous connaître Dieu ? Lisez les Écritures. Instruisez-vous des Écritures comme les apôtres, et le Saint-Esprit viendra dans votre vie et agira puissamment. Et ne reniez jamais les Écritures, ne reniez jamais l'Évangile, la parole de Dieu. Elle est faite pour nous donner la lumière. Elle est de Jésus même. Le psaume 51, le psaume 27 sont des cris de détresse de croyants qui veulent avoir une connexion avec Dieu. Et à la Pentecôte, la connexion était faite pour les croyants. Ce qui avait été désiré et attendu, et aussi promis par des prophètes, le voilà, c'est donné. Ce n'est donc pas un accident. C'est la réalisation des prophéties et c'est l'exaucement des supplications. Ce n'est donc pas des gens qui étaient ivres de vin doux et qui pétaient les plombs. C'était des hommes qui recevaient l'accomplissement des Écritures en eux. Et ce n'était pas eux qui étaient meilleurs que nous ou que ceux qui précédaient. C'est Dieu qui avait décidé ce jour-là de créer l'Église. C'est le jour anniversaire, le premier jour de l'Église, le jour de la Pentecôte. C'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui accomplit sa parole, dans le temps, dans l'espace, dans l'histoire. Le cœur où Dieu me parlait depuis si longtemps a enfin connu Dieu en Jésus. Le cœur où Dieu me parlait depuis si longtemps, moi, étant enfant, etc., je l'ai connu enfin un jour en lisant l'Évangile à 16 ans. Je le désirais depuis l'âge de 4 ans. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, 2 Corinthiens, chapitre 4, une parole formidable de Paul peut nous expliquer cela. Qui m'est arrivé, mais qui arrive à des milliers de gens aujourd'hui, qui est arrivé à des millions de gens dans le passé, qui arrivera encore à des millions de gens. Eh bien, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. L'histoire de saint Augustin, c'est clair, il n'y comprenait rien du tout. Et moi aussi, tout un temps. Sans doute, vous êtes passé par là, ou vous êtes en train de passer par là. Il y a un voile, il y a un obstacle, et vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas où c'est. Comment faire ? Comment arriver à avoir cette connexion intime et profonde avec Dieu, vivante ? Voyons. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle... Donc c'est le péché et Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Donc Jésus mort et ressuscité pour nos péchés. Hein? La splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu et Jésus mort, crucifié pour nos péchés et ressuscité, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Il y manifeste son pardon pour nous. Il y manifeste son amour en Jésus pour nous. C'est la gloire de Dieu. Continuons à lire. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Vous voyez quel sens de renoncement, d'abnégation, de consécration qu'avaient les apôtres et les premiers chrétiens. C'est aujourd'hui cela que Jésus demande de votre part, à moi et à vous, le service de l'Évangile dans ce monde. Puissiez-vous comprendre que votre vie n'a de valeur que par cela? Manger, dormir, payer des factures et mourir, aller dans le trou, qu'est-ce qu'il y a de sublime? Et nos enfants recommencent la même chose. Qu'est-ce qu'il y a de sublime? Mais si nous avons en nous le Saint-Esprit, si nous avons en nous la vie éternelle, si nous avons en nous un rendez-vous avec Jésus quand il revient et que nous lui ressemblons, nous héritons sa gloire, si nous sommes dans sa gloire avec tous ceux qui ont cru, Abraham, Esther, David, Rebecca, Isaïe, Jérémie, si nous sommes dans la gloire avec Pierre, Paul, Jacques et Jean, Marie, Marie de Magdala, Suzanne, Salomé et tant d'autres, nous avons tout gagné. Nous n'avons rien raté. C'est Jésus-Christ Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, Genèse chapitre 1 verset 3, « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quand Augustin, cet homme prétentieux et corrompu, qui vivait à Carthage, hein, et au IVe siècle, et qui tout d'un coup, en lisant l'Évangile, se rend compte que Jésus lui manifeste la gloire de Dieu. Jésus lui montre et lui donne la gloire de Dieu. Et il lui fait resplendir dans son cœur. Tout d'un coup, l'homme mort, l'homme éteint, l'homme insatisfait, l'homme qui courait après tout mais qui n'avait jamais rien, est rempli du Saint-Esprit. Rempli. C'est cela que Dieu veut faire de tous les hommes vides qui traînent sur la rue. Il veut les remplir du Saint-Esprit. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Donc, nous sommes vides et nous sommes, ici Paul prend l'image de l'amphore, de vases de terre qu'il y avait à cette époque-là, qui servait à transporter l'huile, le blé, la farine, etc. Tant de choses, peut-être même les pièces d'argent, etc. Les parchemins aussi, les parchemins, les parfums, etc. Et bien dans ce vase de terre que je suis, Dieu dépose un trésor, une grande puissance, Jésus-Christ ressuscité. Et chers amis, c'est bien clair que Jésus, Paul n'a pas dit que c'était du cristal. Ça, c'est quand Jésus reviendra. Le vase de terre va se changer en vase de cristal. Mais ce qu'il y a, pour le moment, nous sommes des vases de terre. Pourquoi? Parce que nous traînons notre carcasse de péché. Nous traînons nos habitudes, nos désirs, nos convoitises, nos pensées, nos compromis, nos lâchetés. Et tout ça, ça nous rend pas transparent, opaque, comme le vase. Et il faut que ce vase devienne transparent. Voilà toute la leçon au Saint-Esprit d'agir en nous. Au Saint-Esprit d'agir puissamment. Nous deviendrons un vase de cristal. Nous sommes déjà sous la grâce de Dieu. Nous sommes sous la grâce de Dieu. déjà aujourd'hui, si nous avons accepté Jésus et reçu le Saint-Esprit. Dans Actes, chapitre 15, verset 11. Actes, chapitre 15, verset 11. Mes chers amis, je n'ai qu'une passion. C'est que la région se réveille, que l'Église revive. Ce n'est pas le tout d'avoir dans chaque village des bâtiments qu'on appelle l'Église. C'est faux. L'Église, ce sont des cœurs habités du Saint-Esprit, animés de la parole de Dieu, aimant Jésus, recevant ses enseignements et se corrigeant continuellement de tous ses péchés. C'est ça. C'est une communauté de vie. On se corrige mutuellement, fraternellement de nos péchés et on avance pour progresser dans la sainteté et le témoignage pour rendre honneur à Jésus et à notre Père des cieux. Et nous rendons gloire aussi au Saint-Esprit par le fait même que nous obéissons à la parole de Dieu. Acte 15, verset 11. Voici ce que veut dire notre cher frère Pierre, lorsqu'il parle devant toute l'assemblée à Jérusalem, des apôtres, l'Église et les apôtres qui étaient là. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un problème. Il y avait des non-juifs qui étaient devenus chrétiens. Et ça provoquait des disputes. Parce que certains chrétiens d'origine juive pensaient que ce n'était réservé qu'à eux, qu'au peuple juif. Et donc finalement, Pierre va trancher. Pierre se leva, je vais lire à partir du verset 7, chapitre 15, verset 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Éternel, de l'Évangile, et qu'ils crussent. » Donc, pas seulement aux Juifs, aux païens. Pierre lui-même a évangélisé des païens. Il suffit de lire les Actes des Apôtres, chapitre 10 et 11, vous verrez. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage. Donc Dieu connaissait les cœurs de ces païens, il leur a rendu témoignage de quoi ? Il a parlé, le Saint-Esprit a parlé de Jésus-Christ à ces hommes et à ces femmes d'origine romaine. En leur donnant le Saint-Esprit comme à nous, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? Donc retournez aux lois et à toutes les règles rabbiniques, etc. Non, on n'a pas su les accomplir nous-mêmes, on n'est pas fiers de ça, ne retournons pas là-dedans, ils n'en sortiront pas plus que nous. Mais, verset 11, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Par la grâce du Seigneur Jésus. Ça veut dire un cadeau immérité, donné par Jésus. Alléluia. À mercredi, chers frères et sœurs, que Dieu vous donne la joie de vivre en Jésus. Que Dieu accomplisse en vous des belles œuvres. Vous donne la paix et la joie du Saint-Esprit. À bientôt. Amen.